France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
La négociation, c'est notre thème de cette semaine. Aujourd'hui, essai de regard philosophique sur la négociation diplomatique. Une bonne négociation, écrit l'ancien ambassadeur Gérard Araud, se mesure à la satisfaction des deux parties. Comme Gérard Araud est l'un de nos invités ce matin, nous lui demanderons de dire lui-même ce qu'il entend par là, car s'il s'agit d'un cap, cela pose aussi quelques problèmes. En effet, à l'issue d'une guerre, il y a souvent un plus fort et un plus faible, et il est peut-être plus difficile à ce plus faible d'obtenir satisfaction. D'ailleurs, il préfère parfois tenter de reprendre du terrain par les armes, au risque que la guerre poursuivie ne fasse qu'accentuer sa faiblesse et qu'en plus, il passe pour celui qui ne veut pas la paix, tandis que son adversaire s'enveloppe dans l'auréole du pacificateur. Comment tenir face à toutes ces difficultés dans une négociation diplomatique ? La trêve rompue par Israël dans la bande de Gaza il y a quelques jours rappelle la fragilité de ce qui est négocié. On peut toujours affirmer plus tard que la situation a changé. Quant aux péripéties en cours dans les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine, avec le rôle singulier qui jouent les États-Unis d'Amérique, elles nous en apprennent beaucoup sur ce qu'est être un bon négociateur. Il faut savoir utiliser le temps, souffler le chaud et le froid, faire attendre ses réponses, maîtriser aussi un certain spectacle. Nous décryptons tout cela ce matin. Eh bien bonjour Gérard Araud, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes ancien ambassadeur en Israël, ancien représentant permanent auprès des Nations Unies. Vous avez aussi dans votre carrière été conseiller d'ambassade à Washington ou encore représentant permanent à l'OTAN. La diplomatie est tout autant pour vous un objet d'écriture. Je renvoie notamment à votre autobiographie intitulée « Passeport diplomatique » chez Grasset et à votre ouvrage sur Henry Kissinger, paru chez Talendier. Talendier où vous avez aussi publié une histoire diplomatique de la France entre 1919 et 1939. Bonjour Laurence Badel.
Bonjour.
Bienvenue, vous aussi, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Votre objet de recherche est l'histoire des relations internationales et notamment des diplomaties européennes. Vos derniers livres ont été publiés chez Armand Collin et aux presses de Sciences Po. Et bonjour Paul Ratteau.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en philosophie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous vous intéressez au vrai métier du philosophe Leibniz, vrai métier, je reprends l'expression de Nassim El-Kabli dans son livre chez Fayard. En effet, Leibniz, philosophe majeur du XVIIe siècle, était diplomate. Plein d'idées sur cette fonction, vous évoquez cela, Paul Ratteau, dans un article paru sur le site La Vie des Idées.
11h hier à la Maison Blanche. Volodymyr Zelensky est accueilli par Donald Trump pour une entrevue qui s'annonçait cordiale.
Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, il est irrespectueux de votre part de venir dans le bureau ovale et d'essayer de plaider votre cause devant les médias américains. En ce moment, vous forcez vos hommes à rejoindre les lignes de front parce que vous avez des problèmes d'effectifs.
Face à l'attaque du vice-président américain, Volodymyr Zelensky encaisse et ne se démonte pas.
Pendant une guerre, tout le monde a des problèmes, même vous. Vous avez un bel océan qui vous protège. Ce n'est pas encore le cas, mais vous allez le ressentir à l'avenir.
De quoi déclencher la colère de Donald Trump.
Nous essayons de résoudre le problème. Ne nous dites pas ce que nous devons ressentir. Vous n'êtes pas en position de nous dicter quoi que ce soit. Sans nous, vous n'avez pas les cartes en main.
Non, je ne suis pas en train de jouer aux cartes.
Si, vous êtes en train de jouer. Vous jouez avec les vies de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Et ce que vous faites est très irrespectueux envers le pays, ce pays. Vous ne seriez pas un dur à cuire sans les États-Unis. Soit vous concluez un accord, soit nous vous laissons tomber.
Cette scène dans le bureau ovale a eu lieu le 2 mars 2025, il y a donc un peu plus de 3 semaines. Zelensky a été humilié, il a sauvé l'honneur dans une certaine mesure en quittant précipitamment la Maison Blanche, mais très vite, comme le lui demandait Trump au fond, il a exprimé sa reconnaissance envers les États-Unis, dit qu'il voulait la paix et la négociation, accepté d'évoquer avec les Américains l'enjeu des hydrocarbures dans le sol ukrainien. Gérard Araud, finalement, Donald Trump a eu ce qu'il voulait.
Alors, je crois que il faut bien dire, cet épisode sans précédent rappelle deux éléments, en effet, dans toute négociation. La première, c'est la psychologie. C'est-à-dire, quand vous êtes face à l'autre, de l'autre côté de la table, vous devez quand même essayer de deviner sa personnalité, car il n'y a rien de plus humain que la diplomatie. Et donc, si le président Zelensky m'avait demandé mon avis, je lui aurais dit ce que j'ai dit au président Emmanuel Macron, lorsque j'étais ambassadeur à Washington, au cours du premier mandat de Donald Trump. Il ne faut jamais contredire publiquement Donald Trump. Il réagit toujours, et il réagit toujours violemment. Et Donald Trump n'a pas de limite, il n'a pas de surmoi. Et donc, il y a eu une erreur psychologique de Volodymyr Zelensky. Et la deuxième chose que vous dites avec à juste titre, c'est que toute négociation n'est que la formalisation d'un rapport de force. Mmh. Et donc, lorsque vous vous asseyez à la table, vous devez savoir qui est le plus fort et qui est le plus faible, quelles sont vos cartes, et vous devez donc les jouer en tenant compte de ce rapport de force, surtout lorsque vous êtes face à un Donald Trump qui utilise avec la plus grande brutalité, même la plus primitive brutalité, ce rapport de force.
C'est très intéressant, vous venez d'employer l'expression même de Donald Trump, les cartes. Quand il lui a dit à Zelensky, Trump lui a dit, vous n'avez pas les cartes en main pour jouer, j'interprète légèrement, le rôle que vous êtes en train de jouer, vous êtes trop arrogant. C'est terrible parce que ça fait partie des choses qui ont le plus choqué, c'était plus que brutal. Mais finalement, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que ce n'était pas tout à fait faux. Le rapport de force aurait peut-être exigé que Zelensky fût plus modeste.
Oui, en tout cas, qu'il garde ses réflexions pour la réunion sans la presse. Face à la presse, Trump ne pouvait pas perdre. Je rajoute, pour revenir sur les cartes, voyez, quand on négocie en tant que diplomate, il m'est arrivé de dire « Oui, mais là, sur ce sujet, nous n'avons qu'un deux trèfles. » Voyez, quand on préparait la négociation. Donc, l'aspect jeu de cartes, au fond, joue en effet son petit rôle dans la formalisation ou dans le calcul de chaque négociateur. Quand vous vous asseyez, d'abord, vous devez essayer de deviner la personnalité de l'autre, parce que pour essayer de jouer cette personnalité, est-ce que c'est un dur, est-ce que c'est un mou, est-ce que l'humour, est-ce que la colère peut jouer? Et deuxièmement, essayer d'éviter de traverser sa ligne rouge, de provoquer sa colère. Et puis voilà, vous savez que si vous avez un deux trèfles ou si vous avez un as de pique. Et quand je négocie face à un Américain, par exemple, eh bien, je sais bien que non seulement j'ai un deux trèfles, mais qu'en plus l'Américain en face de moi, qui ne conçoit son rôle comme le rôle du leadership, un Américain ne conçoit son rôle que celui de leadership, bah, l'Américain va quand même me bousculer. Alors qu'il me bouscule à la Joe Biden ou à la Donald Trump, c'est évidemment très différent, hein, dans le, si on vous ferme la porte sur les doigts, ça fait mal. Mais le résultat est de toute façon est le même. S'il y avait eu Kamala Harris en face de Zelensky, de toute façon, elle lui aurait imposé sa volonté. Oui. Les Américains, vous savez.
Elle ne lui aurait peut-être pas dit, vous êtes arrogant.
Ah, naturellement. Elle aurait été polie. Mais vous savez, j'ai écrit donc une biographie de Kissinger. Lorsque les Américains ont lâché le Sud-Vietnam, ils ont lâché le Sud-Vietnam. Ils ont tordu le bras du général Thieu. Il y a tout un épisode où, en gros, Kissinger en 75 va à Saïgon et, en gros, dit à Thieu, nous vous lâchons. Et le pauvre Thieu essaye de se débattre, mais de se débattre en vain. Donc voilà, il y a les formes, et les formes comptent, mais de toute façon, je suis convaincu que les États-Unis auraient négocié avec la Russie, et qu'ils auraient négocié avec la Russie par-dessus la tête de l'Ukraine.
Alors vraiment, je trouve ça très intéressant, la manière dont vous prenez cette question, qui a soulevé beaucoup d'indignation morale. Alors, Laurence Badel, c'est vrai que la forme au-delà du fond, bon, le fond, le fait qu'il lâche Zelensky, jusqu'à quel point, on va voir d'ailleurs, c'était très troublant, malgré tout, le fond aussi a choqué, mais c'est vrai que l'indignation morale de beaucoup de gens était liée largement à la forme, qui était inouïe, quoi. Ce qui s'est passé là est inouï. Mais l'histoire de la diplomatie nous apprend-elle, comme le suggère Gérard Haro, à être plus prudent? C'est un moment, c'est un show. Peut-être que Zelensky aurait dû le prévenir, c'est-à-dire au sens de éviter une scène pareille. Est-ce que c'est votre manière de plus politique, finalement, plutôt politique que morale, de réfléchir à cette scène?
Bon, en l'occurrence, il y a plusieurs choses dans le commentaire de Gérard Haro qui fait réagir l'historien. Alors, tout ce que vous avez dit, effectivement, de la nécessité de se mettre à la place de l'autre, d'anticiper ses réactions, c'est quelque chose sur laquelle on réfléchit en fait de très longue date. Hein, les premières réflexions qui remontent au 15e, 16e siècle autour de la figure du bon ambassadeur développent cette sorte d'anthropologie des passions. Je pense au livre en particulier de François de Calière, alors au début du 18e siècle, sur l'art de négocier avec les souverains, qui explique ce que vous expliquez, monsieur l'ambassadeur. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Alors, en ce qui concerne ce qui s'est passé dans la Maison Blanche, je ne dirais pas qu'il faut relativiser. Effectivement, en soi, c'était inouï, mais ça renvoie quand même à un certain nombre de choses. D'une part, au fait que, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on associe toujours la diplomatie à la paix, la sphère diplomatique n'est pas une sphère exempte de violence. Simplement, effectivement, la plupart du temps, ces violences, y compris entre négociateurs, ne se déroulent pas devant des caméras. Et d'autre part, la diplomatie des États-Unis d'Amérique a toujours été une diplomatie qui a très bien su jouer l'opinion publique par-dessus la tête des États et s'adresser aux opinions publiques par-dessus la tête des États. Et je crois que ce qui s'est passé aussi, c'est le rejet sous une forme violente de cette capacité des États-Unis à promouvoir une forme de diplomatie révolutionnaire.
Révolutionnaire voulait dire au sens où elle sollicite l'opinion publique. Il n'empêche que c'est la première fois qu'une scène de ce genre dans le bureau ovale a été filmée.
Oui, absolument. Une réflexion aussi que je me fais. Alors, c'est le handicap sans doute qu'a représenté pour Volodymyr Zelensky sa maîtrise relative de l'anglais.
Ah oui, moi j'ai pas compris pourquoi il
aurait
pas
été un dirigeant chinois, à mon avis, se serait exprimé dans sa langue. Oui. Il y aurait eu le temps de l'interprétation, et je pense que ça aurait pu permettre de reposer le débat. Ça, c'est aussi une chose sur laquelle les historiens réfléchissent beaucoup. Il a été très certainement handicapé par cela.
En plus, ils étaient deux. Il était seul, ne serait-ce qu'avec un interprète. Absolument. Ça fait une personne de plus, un temps de plus. C'est vrai que c'est très troublant. Ce sont des décisions, Gérard Haro, qui sont prises, vous qui connaissez bien le milieu des diplomates, en conscience. Peut-être qu'on s'est dit, tiens, il va parler dans la langue de celui avec qui il négocie, ce sera bien vu, ça va lui donner une bonne image, mais ça a été une erreur.
Oui, sans doute. En effet, aujourd'hui, parler anglais, ça fait moderne. Ça fait appartenant à la grande communauté des nations démocratiques. Vous savez, le général de Gaulle comprenait, parlait l'anglais en réalité, mais jamais il n'acceptait de parler en anglais lorsqu'il avait un visiteur anglophone. Et ça lui permettait, au moment de, disait-il lui-même, pendant qu'on lui faisait la traduction de ce qu'il avait déjà compris, ça lui permettait de préparer sa réponse.
Alors, maîtrise du temps, y compris de la traduction lorsqu'on parle dans sa langue et qu'il faut traduire pour son interlocuteur. Maîtrise de la scène, hein, car il y a des apparences de spectacle, que ce soit filmé ou non, il y a un peu de théâtre. Tout cela compte. Leibniz est un philosophe du XVIIe siècle. Il est né en 1646, il est mort en 1716. Et je voudrais tout de suite introduire avec vous Paul Rateau, ce personnage que nous connaissons par des traités métaphysiques extrêmement rudes. C'est un génie avec un cerveau incroyable. Et c'est vrai qu'il était par ailleurs diplomate. Est-ce que vous diriez, d'abord dites-nous quel genre de diplomatie il faisait, et est-ce que vous diriez que c'était aussi un génie de la diplomatie ou quand même pas ?
Alors c'est difficile de vous répondre comme ça, sinon que ce qui est frappant chez ce philosophe, c'est qu'il est unique dans la mesure où il est, vous l'avez rappelé, métaphysicien, mais aussi physicien, mathématicien de génie, et c'est sans doute l'unique philosophe qui a été diplomate, conseiller politique et juridique d'un certain nombre de grands personnages de son temps. Autrement dit, c'est quelqu'un qui a une pratique à la fois du droit, de la politique et de la diplomatie. Et c'est véritablement unique parce que si on compare à d'autres auteurs, je pense à Grotius ou à Machiavel, qui ont eu une vie politique, si oui. je puis dire, il est unique dans la mesure où il a cette assise métaphysique et cette ampleur de pensée. La diplomatie, il l'a pratiquée à plusieurs reprises dans son existence. D'abord par une première mission diplomatique à Paris.
Alors, vous précisez où il est né à Leipzig. Alors, il est de langue allemande.
Voilà.
Il est dans le Saint-Empire romain germanique.
Alors voilà, c'est ça. Gérard Haro parlait tout à l'heure de la difficulté quand on négocie lorsque l'on est faible. Bon. Alors, c'est le cas de l'Allemagne à l'époque. C'est-à-dire, l'Allemagne, c'est une mosaïque de principautés. Mmh. Il y a des villes libres, il y a des princes d'empire, il y a des princes électeurs. Sous l'autorité de l'empereur, du Saint-Empire romain germanique, qui a une autorité qui est de droit, mais en réalité, chacun est libre, indépendant dans sa principauté. Ça va de ville jusqu'à le royaume de Bohême ou l'archiduché d'Autriche. Bon. Donc il y a une grande variation et cette désunion fait la faiblesse de cet empire par comparaison avec notamment la puissance française, mais aussi la Hollande ou encore l'Espagne.
Donc il est au service. Pardon. Je voudrais m'assurer parce que c'est complexe.
C'est très complexe.
il travaille pour la dynastie de Hanovre,
voilà.
Dite aussi de Brunswick,
Lunebourg.
Oui. C'est une petite dynastie, mais le vrai enjeu, si j'ai bien compris quand même pour le 17e, c'est la Hollande et c'est l'Angleterre, puisque les Hanovres, cette dynastie, va monter sur le trône d'Angleterre avec la Glorious Revolution de 1688. Alors on n'y est pas, il commence sa diplomatie un peu avant, Leibniz. Ce que j'ai trouvé étonnant, c'est qu'il va tout de suite plutôt vers la France, qui est quand même l'ennemi, qui est autre chose. Il a des espoirs incroyables d'apaiser l'Europe en réconciliant la dynastie de Hanovre, forte plus tard en Angleterre et en tout cas très forte en Hollande, avec le royaume de France. C'est étrange quand même qu'il aille là-bas.
Pourquoi va-t-il là-bas? Pourquoi il va chez nous? Parce que c'est la grande puissance. C'est un petit peu ce qu'est aujourd'hui les États-Unis. La France à l'époque, c'est elle qui est dirigée par Louis XIV, qui a une politique expansionniste en Europe. Et à l'époque du séjour à Paris en 1672, Leibniz n'est pas encore au service du duc de Hanovre, mais il est au service du prince archevêque de Mayence. Et il est envoyé en mission à Paris pour présenter à Louis XIV un projet d'invasion et de colonisation de l'Égypte. Bon. Pourquoi l'Égypte? Eh bien parce qu'il s'agit pour Leibniz d'essayer de détourner Louis XIV de la Hollande, donc prévenir, ce qu'il n'a pas réussi puisqu'il y a eu une guerre contre la Hollande dès 1672, dès son arrivée pratiquement à Paris, et d'essayer de détourner le roi de France vers des conquêtes dans le Levant, de manière à ce que finalement la Hollande ne soit pas attaquée et aussi par là même le Saint-Empire pour protéger. Et alors, ce qu'il y a quand même derrière d'intéressant, c'est que derrière cette mission, il y a l'idée que il faut sortir la guerre de l'Europe. Et donc là.
Oui, mais qu'est-ce qu'un jeune diplomate allemand va avoir comme crédibilité pour engager Louis XIV dans une guerre en Égypte? Il y a quelque chose d'un peu fou quand même. Ça m'a vraiment surprise en vous lisant.
Alors, c'est un peu fou, mais l'intérêt de la chose, c'est que dans le projet égyptien, il y a une dimension religieuse qui est, eh bien, au fond, qu'il y ait des guerres entre États chrétiens, c'est insensé et c'est impie. Il faut, au contraire, il y a une sorte de résurgence de l'idée de croisade. Alors on va lui dire très vite à Paris que les croisades, c'est plus à la mode. Hein, depuis Saint-Louis, on fait plus de croisades. Mais il y a cette idée, au fond, que ce sont des guerres fratricides. Les guerres européennes, ce sont des guerres fratricides. Et donc, puisqu'il y a cette volonté de gloire, de conquête, il faut aller la déplacer ailleurs, hors de l'Europe. C'est ça, en fait, l'idée. Oui. Il y a un projet qui est celui de faire la gloire de la France, mais au bénéfice, finalement, de la paix en Europe. Alors, ça n'a pas fonctionné parce que l'ambition de Louis XIV n'était pas celle-là, même si bien plus tard, un certain Bonaparte va, lui, faire cette conquête de l'Égypte, mais dans d'autres circonstances et pour d'autres raisons. Mais ce qui est intéressant dans ce projet égyptien, c'est cette dimension européenne de la chose.
Oui, c'est la paix en Europe.
Voilà, c'est quand même cette idée de... Et deuxième chose, dans le projet européen, c'est pas sans lien avec le principe de la place d'autrui, il y a dans la rédaction du texte, de la part de Leibniz, c'est l'idée de se mettre à la place de Louis XIV, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut, alors c'est ça. Alors qu'est-ce qu'il recherche? Ben il recherche la grandeur, il recherche la gloire et il cherche à battre la Hollande qui est la puissance rivale. Bon. Et comment battre la Hollande? Comment battre la Hollande? Eh bien, non pas sur son territoire, mais en coupant la route des Indes. C'est-à-dire en s'attaquant à ce qui fait la richesse de la Hollande. Et là, il se dit, on ne gagnera pas, vous ne gagnerez pas contre la Hollande en envahissant la Hollande, mais il faut en fait, cette puissance économique, il faut la sécher. Et par là même, il faut, par le contrôle de l'Égypte, en réalité, couper la voie vers ce qui fait la richesse de l'Europe, c'est-à-dire les Indes.
On y reviendra parce que là, vous abordez la question des qualités du diplomate, les qualités, les vertus qui permettent de convaincre. Alors justement, Gérard Haro, il faut avoir le sens du rapport de force. C'est ça ce que j'ai entendu dans votre première intervention. Le sens des intérêts, vous qui êtes ancien ambassadeur et qui avait assisté à tellement de négociations. Le sens aussi de certains principes, de certaines valeurs, mais toujours, je présume, avec les intérêts. C'est ça qui est difficile. Et puis, il faut sans doute de l'imagination, comme Leibniz en avait, lorsqu'il osait dire, lui, le jeune diplomate allemand philosophe, à Louis XIV, vous feriez mieux d'envahir l'Égypte. Mais peut-être que trop d'imagination et trop... de façon d'aller vers des projets qui ne sont pas les siens. Enfin, on peut pas suggérer à un empereur d'aller envahir un autre pays comme ça. Peut-être que les qualités peuvent se retourner en défaut aussi. J'aimerais que vous nous parliez de tout cela, Gérard Haro.
Alors d'abord, excusez-moi, mais il faut rappeler qu'il y a une différence entre politique étrangère et diplomatie. C'est-à-dire que moi, en tant que diplomate, ce n'était pas moi qui décidait de la position de la France. J'agissais sous des instructions. La politique étrangère, c'est le gouvernement de la République. Par exemple, lorsque j'étais aux Nations Unies et que j'ai porté la résolution 1973 qui allait entraîner l'intervention militaire contre la Libye, vous pensiez bien que c'était pas mon imagination. C'était, j'avais des instructions, reçu des instructions sur d'aller dans telle direction. Et donc, il m'est arrivé, en tant que diplomate, de mettre en œuvre avec tout le zèle, toute mon intelligence et toute ma loyauté, des politiques que je n'approuvais pas, que je considérais comme étant finalement, de mauvaises politiques pour les intérêts de mon pays, ou même en termes diplomatiques. Donc, le diplomate, c'est quand même également, quelqu'un qui met en œuvre ce que d'autres ont décidé. Et ensuite, vous devez évidemment, vous êtes en charge un petit peu de la tactique de négociation.
Oui.
Ce qui n'est pas facile, parce que non seulement vous négociez avec celui qui est en face de vous, mais vous devez aussi négocier avec celui qui vous envoie des instructions. Parce que souvent, d'abord, les instructions qu'on vous envoie ne peuvent pas couvrir tout le champ de ce qui arrive. Et puis ensuite, les instructions qu'on vous envoie, souvent, vous savez qu'elles sont irréalistes. Et donc, il y a des moments où vous devez les tordre, vous devez ne pas les mettre en œuvre, ce qui, évidemment, ça dépend d'un côté de votre statut personnel et de l'autre, de vos négociations avec Paris. C'est-à-dire, vous négociez avec deux côtés.
Deux.
C'est-à-dire, vous négociez avec le Russe, l'Américain ou d'autres, et ensuite, quand vous rentrez dans votre bureau, vous appelez Paris et vous essayez de tâter le terrain. Et à Paris, il y a plusieurs acteurs. Vous avez le Quai d'Orsay, mais vous avez aussi l'Élysée. Et les deux acteurs peuvent ne pas être sur la même ligne. Il y en a un qui doit peut-être plus dur que l'autre. Donc c'est aussi le négociateur, il doit montrer aussi son adresse, si j'ose dire, non seulement en face, mais aussi par rapport à sa propre capitale. Mais de nouveau, la politique étrangère, souvent aujourd'hui, à cause des médias sociaux, on met en cause l'ambassadeur. Vous voyez, j'étais ambassadeur en Israël, avec commission d'améliorer les relations bilatérales. C'était un choix de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin. Et ensuite, on m'a traité de pro-sioniste à cause de ça. Mais, comme je l'ai dit un jour, si on m'avait donné comme instruction de geler la relation bilatérale, eh bien, je l'aurais fait.
Alors, je rebondis là-dessus. Puis, évidemment, Laurence Badel, on va prolonger cette analyse des vertus du bon diplomate. Mais lorsque vous étiez vous-même, comme vous l'avez rappelé, entre 2003 et 2006, ambassadeur en Israël, Gérard Haro, c'était un moment qui succédait à la période Oslo. Et vous dites qu'il ne fallait pas geler les relations, mais enfin, c'était peut-être un moment complexe. Il y avait plus grand-chose à faire, en tout cas pas la même énergie pacificatrice que quelques années plus tôt. Alors, comme vous avez travaillé sur Henry Kissinger, nous avons retrouvé un entretien de Kissinger sur CBS, où précisément il suggère que parfois un bon diplomate doit savoir qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Ce n'est pas le bon moment. Écoutez.
Est-ce que vous pensez que nous devrions faire davantage pression sur Israël pour arrêter les colonisations ?
Je ne pense pas qu'il y ait un quelconque intérêt pour les États-Unis à prendre une position théorique abstraite, pour ou contre qui que ce soit, jusqu'à ce qu'on puisse se référer à un programme de négociation complet et à un résultat prévisible. Mieux vaut ne rien faire qu'échouer. Et je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. Il faut évaluer la situation, dessiner une stratégie. Il faut restaurer la confiance dans notre capacité à affecter les événements. Je ne pense pas que nous devrions revenir à la négociation tant qu'il n'y a pas un accord entre les parties. Pas sur un résultat précis, mais sur les grandes lignes de ce que nous essayons de faire. Je pense qu'appeler à la négociation dans l'abstrait, alors que les deux côtés ont une vision totalement différente de ce que le résultat devrait être, nous mènera à une impasse, ce qui est contre nos intérêts.
Pas de négociation dans l'abstrait, dit ici l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger, donc c'est ce qu'on appelle nous le ministre des Affaires étrangères. C'était en mars 1984, avant, bien avant Oslo, bien avant la décennie d'après où vous, Gérard Haro, avez été ambassadeur en Israël. Est-ce que vous y pensez parfois, vous qui connaissez Kissinger, ne pas faire des choses quand ce n'est pas le moment ?
Oui, naturellement. Mais vous savez, on en était là le 7 octobre 2023. En réalité, lorsqu'on a la veille du 7 octobre 2023, souvent de manière implicite, mais toutes les parties, les États-Unis, mais aussi les Européens, en avaient conclu qu'il n'y avait rien à faire, que la négociation entre Israël et les Palestiniens était fondamentalement impossible parce que les deux parties n'étaient pas prêtes, chacune pour ses raisons propres, n'étaient pas prêtes à négocier. Et finalement, on s'en accommodait assez facilement. Nul ne l'aurait dit. Vous voyez, les Européens répétaient solution des deux États. Mais rappelons-nous que Joe Biden a été le premier président américain à ne pas proposer d'initiative de paix au Moyen-Orient. Oui. Même Trump avait mis sur la table un plan de paix tellement pro-israélien qu'il en était absurde, mais même lui avait pensé qu'il fallait faire quelque chose. Et donc, paradoxalement, je dirais que le 6 octobre 2023, tout le monde regardait ailleurs et tout le monde considérait que, d'une certaine manière, le conflit était résolu par une non-solution et le conflit a explosé surtout d'ailleurs, évidemment, à la face des Israéliens.
Et si aujourd'hui, c'était toujours la même chose ? On essaye des négociations, ça ne marche pas bien. On a beaucoup dit qu'Israël avait été seul, certains l'ont dit, mais est-ce que vraiment Israël voulait être aidé pour négocier des choses à la fin de l'année 2023, après le 7 octobre, désormais ? Comment vous voyez les choses ? Y a-t-il quelque chose à faire en termes de négociations, réellement ?
J'ai publié un livre qui s'appelle Israël, le piège de l'histoire, il y a maintenant 6 mois, et j'essaye de proposer un plan de paix, mais je dois avouer que je ne parierai pas ma retraite de fonctionnaire sur ce plan de paix. D'une certaine manière, je dirais que la situation, entre guillemets, c'est odieux de dire ça, arrange les deux parties. C'est-à-dire que du coup, ça permet au Hamas de se présenter comme le défenseur de la nation palestinienne face à l'adversaire, et à Israël, ça lui permet de ne pas trancher la question fondamentale qui est la question de la Cisjordanie, la terre de la Bible que ce gouvernement d'extrême droite veut conserver. Et donc ça, chacun est enfermé dans son propre refus de l'autre. Et d'ailleurs, au fond, personne ne parle de négociation. Certainement pas l'administration Trump, mais vous entendez bien le silence des Américains, le silence des Européens, pardon. Silence absolu des Européens.
C'est-à-dire, on peut se passer d'eux, pour faire quelque chose.
Comment?
On peut se passer des Européens. Je ne dis pas ça avec satisfaction.
Ah non, mais les...
Mais on peut se passer d'eux.
Ah
bah,
les Israéliens veulent se passer des Européens, Ça, c'est une évidence.
Laurence Badel, alors j'aimerais, nous sommes dans une émission, nous évoquons la négociation diplomatique au sein d'une série sur la négociation. Laurence Badel, vous êtes spécialiste de l'histoire des diplomaties européennes. Aujourd'hui, vous pensez que c'est vraiment une nouvelle ère où on exagère en disant que, un peu lâché par les Américains, je dis un peu parce qu'en fait, il faut qu'on prenne la mesure de ce qui se passe. Je ne sais pas bien, personnellement, jusqu'à quel point on va être lâché, donc je suis prudente. Est-ce qu'il y a un sursaut, quelque chose qui vous paraît, à vous l'historienne, inédit en ce moment en Europe?
Ce qui est inédit, effectivement, c'est... Le sentiment que ce qu'on appelait l'Occident pendant la guerre froide est en train de se fracturer. C'est cette divergence croissante entre les États-Unis d'Amérique et les États du continent européen. Mais ensuite, ça renvoie à une question de fond qui s'est posée dès les débuts de la construction européenne. Est-ce que l'Europe allait vouloir s'assumer comme une Europe puissance, comme on a dit? Ou est-ce qu'elle allait se cantonner dans un rôle de puissance civile, comme ça a été théorisé par François Duchesne, qui était un proche de Jean Monnet dans les années 70. Et elle a plutôt joué ce jeu-là, ce jeu de la puissance civile, de la puissance morale. Rappelez-vous, l'Union européenne a même reçu un prix Nobel de la paix. Et cette idée qu'on allait pouvoir arraisonner le monde par la négociation des normes, par le doux commerce, etc., etc. Et en cela, d'ailleurs, ça reflétait aussi finalement la pratique diplomatique d'un des principaux États européens, qui était l'Allemagne de l'Ouest et puis l'Allemagne, qui s'est toujours pensée aussi comme ce type de puissance à la fois civile, morale, appuyée sur une réelle puissance commerciale. Alors, ce qui change aujourd'hui, c'est qu'une nouvelle fois, parce que c'est pas la première fois dans l'histoire, les États-Unis mettent les Européens face à leurs responsabilités en matière de financement de leur sécurité. Ça, c'est quelque chose de tout à fait important, parce que ça nous rappelle effectivement que depuis les débuts de la guerre froide, le fardeau était porté par les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas la première fois. Kissinger aussi, au début des années 70, avait appelé à un sursaut des Européens. Mais là, je crois qu'on entre effectivement dans une phase nouvelle qui est très stimulée par ces États de l'Europe dite de l'Est que nous sommes en train de redécouvrir. Alors pour les historiens, l'existence des États baltes, de la Finlande, de la Pologne, n'est pas une découverte dans les relations internationales ni dans l'histoire de l'Europe. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ce sont des États qui sont en première ligne devant la menace russe et qui jouent le rôle de réel stimulateur vis-à-vis des autres Européens. Donc la question se repose de construction d'une défense européenne, financée par des Européens qui doivent être capables dorénavant de coordonner leur stratégie en matière de politique extérieure, de coordonner aussi leur effort industriel et leur effort commercial. Parce qu'on connaît tous les grandes contradictions en termes d'achat d'armes aux États-Unis. Enfin là, il y a des grandes divergences.
Oui.
Donc là, les débats, je crois, rentrent dans une phase effectivement nouvelle qui met chaque État en face de ses responsabilités. Mais ensuite, ça va reposer des questions de fond, qui sont celles de la souveraineté des États. Jusqu'à quel point vont-ils accepter de déléguer leur souveraineté en matière non seulement de diplomatie, mais aussi de défense. Et là, c'est Jean Bodin, c'est la définition de la souveraineté.
Jean Bodin, auteur en 1576 des 6 livres sur la République, voilà, qui a vraiment forgé le concept de souveraineté, de l'État.
Et qui, voilà.
Gérard Haro.
Moi, vous savez, au fond, quand je regarde ma carrière, mes 40 ans de carrière, je dirais que j'ai été le diplomate des temps heureux. C'est-à-dire que jamais dans mes négociations, les négociations que j'ai conduites, et j'en ai conduit vraiment beaucoup, jamais la guerre était au bout du chemin. C'est-à-dire que je négociais, parfois c'était dur, parfois le ton montait, mais jamais je n'ai pensé que si la négociation échouait, il y avait un risque de guerre, ou je n'ai conduit la négociation en utilisant la menace de la guerre. Or, la guerre, c'était l'horizon de toutes les générations de diplomates qui m'ont précédé, et cela depuis au moins le 15e siècle, même depuis les millénaires de la diplomatie, le plus vieux métier au monde. Et donc c'est ça le changement.
Mais même en Israël, Gérard Haro, où quand vous étiez ambassadeur entre 2003 et 2006, il n'y a pas toujours un peu la perspective de la guerre. Il y a toujours un peu la guerre.
Non, parce que je suis le diplomate français. C'est je représente les intérêts de la France. Mmh. Et donc la France, jamais je n'ai eu à dire la France est menacée de guerre, voyez, ou jamais je n'ai eu à dire attention, la France peut faire la guerre si vous ne cédez pas.
En effet,
voyez,
oui.
Il y a l'horizon était un horizon, justement, l'horizon européen, c'était le sentiment, l'illusion que après avoir produit deux guerres mondiales, génocide, nous avions enfin trouvé le chemin de la sagesse et que nous avions sorti la guerre comme une sorte d'archaïsme insupportable de notre vision politique du monde. Nous avons rêvé que le monde deviendrait progressivement une sorte de gigantesque Union européenne où tout se réglerait par des procédures agréées dans les couloirs de Bruxelles. Nous avons pensé être modèle pour le monde. Et c'est le monde, le 24 février 2022 et le 7 octobre 2023, le monde nous a vraiment dit non, non. Oui. Vous n'êtes pas un modèle.
Oui, à votre nom. En effet, le nom est assourdissant. Laurence Badel.
Oui, c'est un témoignage extrêmement intéressant. Effectivement, vous êtes le diplomate du temps des dividendes de la paix. C'est un témoignage extrêmement intéressant d'un diplomate français, d'un diplomate européen de l'Ouest, effectivement, et ce qui ne renvoie pas à la même expérience de tous les diplomates. Vous avez aussi raison, Géraldine, sur l'ensemble de la planète durant ces années-là. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec cela. Oui.
Alors, Paul Ratto, vous êtes spécialiste de Leibniz qui était diplomate au XVIIe siècle, mais comment vous entendez, à l'aune des réflexions de Leibniz sur la paix qu'il jugeait, j'ai cru comprendre, relativement impossible durablement, comment vous entendez les échanges qui viennent de se dire entre Gérard Haro et Laurence Badel sur la situation d'aujourd'hui?
Alors écoutez, en vous écoutant, il y a une déclaration de Leibniz qui se trouve dans la Théodicée qui m'a frappé. Je vous la donne. C'est une des règles de mon système de l'harmonie générale, que le présent est gros de l'avenir et que celui qui voit tout voit dans ce qui est ce qui sera. Alors c'est intéressant, donc dans ce qui est ce qui sera, il y a déjà dans ce qui est les prémices de ce qui va arriver. Alors celui qui voit tout, c'est bien sûr Dieu, mais le diplomate est au fond celui qui doit voir, ou en tout cas l'expert dans les relations internationales, c'est celui qui se méfie dès lors que l'on parle d'événements historiques. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup ça aujourd'hui, rupture, discontinuité. Eh bien au fond, il faut toujours se demander si ça n'est pas une vue superficielle des choses ou par ignorance. Parce que si on suit ce principe leibnizien, au fond, tout est déjà là. C'est-à-dire que le rôle de celui qui s'intéresse aux relations internationales ou qui est un praticien diplomate, c'est de déceler les forces en présence. C'est véritablement d'observer les tendances de fond qui vont à un moment donné apparaître au grand jour, rendre sens, mais qui sont en fait déjà là. Donc autrement dit, on a souvent tendance, par le temps médiatique, d'interpréter rapidement un événement comme un événement, hein, c'est-à-dire comme une rupture avec ce qui précède. Et il n'est pas certain que ça soit véritablement une rupture, c'est-à-dire qu'il y ait une continuité, mais qu'au fond l'événement c'est un point saillant. c'est une sorte de point saillant dans la continuité. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'elle est préparée pour celui qui sait voir. C'est-à-dire pour celui qui est capable d'avoir ce regard devant l'écume des événements, voir véritablement ce qui est significatif et ce qui va avoir une incidence à un moment donné, ce qui n'est pas encore sensible. Et ça, c'est très très leibnizien comme...
J'ai presque envie de vous dire, plus tard, Hegel dira des choses semblables en disant que le philosophe, alors peut-être aussi le diplomate, dans l'écorce du présent, doit sentir le noyau. Et ça ressemble
beaucoup.
C'est
tout à fait ça. C'est-à-dire, le diplomate philosophe, c'est justement celui qui est à la fois très informé de l'état des choses, de l'état des rapports, et qui voit ce qui se dessine, et qui n'est pas surpris.
Et ça
je pense
fait
que c'est
réagir
celui qui n'est jamais
nos...
surpris.
Oui, ça fait beaucoup réagir, c'est ça qui est très intéressant dans cette émission. La philosophie fait réagir nos spécialistes de la diplomatie et notre ancien ambassadeur, Gérard Haro.
Eh bien oui, c'est un très bon exemple de ce point de vue-là, c'est le fait que il y avait... ça fait maintenant un certain nombre d'années que je suis convaincu que les États-Unis allaient quitter l'Europe. Que les États-Unis, sur la pointe des pieds, quittaient l'Europe parce que, à leurs yeux, l'Europe n'était plus essentielle. C'est-à-dire, pour eux, la menace, c'est évidemment la Chine, non pas la Russie. Hein. La Russie, pour eux, c'était une station-service avec des armes nucléaires, pour citer le sénateur Romney. Donc, la Chine, et en plus... Pour eux, la croissance économique, l'avenir du monde, je cite Obama, se fera entre Los Angeles et New Delhi. Pour les Américains, et quand on vit aux États-Unis, on sent que l'Europe est en train de devenir une périphérie du monde. Et donc, les États-Unis, qui sont des pragmatiques, partaient un peu sur la pointe des pieds lorsque, en envahissant l'Ukraine, Poutine les a rattrapés par les Basques parce qu'ils ne pouvaient pas accepter que l'Ukraine tombe aux mains de la Russie et que les Européens étaient à l'évidence incapables de faire le travail.
Donc, vous l'aviez anticipé.
Moi, j'étais convaincu que ça se ferait.
Et après,
de nouveau,
il y a un événement plus particulièrement.
Comme je le disais, je suis convaincu que s'il y avait eu Kamala Harris, il y aurait eu aussi négociations sur l'Ukraine, qu'à l'américaine, ça se serait fait par-dessus la tête de Zelensky et des Européens, mais évidemment en y mettant les formes. Et là, c'est la tendance de long terme, c'est les États-Unis quitte l'Europe. Alors, de nouveau, si ça avait été Kamala Harris, elle aurait fermé la porte poliment en disant « ça a été bien, au revoir », mais Trump nous la claque sur les doigts. Et ça fait très mal, mais la tendance de fond est là. Pour les Européens, l'Europe n'est plus essentielle.
Laurence Badel.
Oui, je crois que ce qui fait la force du bon diplomate, ce qui peut lui donner une certaine capacité d'anticipation, voire de prospective, c'est sa mémoire. Voilà, on parlait beaucoup du présent et du futur. Évidemment, comme historienne, je pense au passé. Mais la mémoire diplomatique est quelque chose de tout à fait fondamental. Le diplomate, c'est celui qui, en principe, a la mémoire des négociations du passé, a la mémoire des négociations dans une région plus particulière du monde, et qui a cette capacité, comme vous le dites, à relativiser l'événement en le plaçant dans un continuum et en essayant d'évaluer les variations à la marge. Mais alors ça, évidemment, ça dépend de la culture historique aussi du diplomate. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, sur la perte de cette culture historique dans certaines générations, la perte d'une culture de guerre froide, voire la perte même de la mémoire de négociations antérieures. C'est un point tout à fait fondamental.
Au point de vue moral, si on prend une morale kantienne pour Kant, il ne faut jamais mentir, or un diplomate, comme on l'a dit souvent, est fait pour mentir pour son pays. Et inversement, il y a des cyniques purs dans le dialogue des Athéniens et des Méliens dont Thucydide dit « les forts font ce qu'ils peuvent et les faibles subissent ce qu'ils doivent ». Et Hitler disait « on ne reproche leurs victimes qu'au César vaincu », point final. Mais toute politique est par définition un compromis entre le principe de réalité et des principes universels. Si on n'a que les principes universels, on ne fait pas de politique, on est le pape, et encore lui-même fait de la politique. Si on est purement cynique, là, justement, on tombe dans Hitler, dans des tas de choses. Et il y a une phrase d'un grand auteur juif, Hillel, qui résume bien les choses en disant « Si je ne parle pas pour moi, qui parlera pour moi? Mais si je ne parle que pour moi, qui suis-je » Est-ce que pour autant, il faut embrasser M. Poutine, qui est très suspect d'avoir organisé les attentats terroristes qui ont détruit la Tchétchénie et refusé de serrer la main de Madame Waldner ou quel est le nom du ministre des Affaires étrangères autrichien. Non. Donc c'est toujours une question de gestion, d'essayer d'introduire un petit peu d'éthique dans un monde international qui est fait de rapports de puissance, mais où quand même il y a des choses, le massacre, le génocide, la guerre atomique, qu'il ne faut à aucun prix faire.
C'était Pierre Hassner, philosophe de formation et spécialiste de relations internationales. Il nous manque tellement. Il s'exprimait là en 2002. Il parlait déjà de Poutine, bien évidemment. Et il nous rappelle qu'on ne négocie jamais seulement avec des principes moraux. Il faut essayer de les mettre dans une considération des rapports de force et des intérêts, sans être pour autant cynique. Cet équilibre, c'est l'équilibre impossible et en même temps nécessaire tout le temps, Laurence Badel.
Ah ben là aussi, c'est une question extrêmement ancienne que celle de la morale en diplomatie et de manière plus générale de la morale en politique. Je pense surtout que la morale, effectivement, a pu servir de fondement à l'expression de certaines politiques extérieures. On peut penser à la politique extérieure wilsonienne, telle qu'il a voulu la mettre en place au sortir de la Première Guerre mondiale. Mais elle s'est surtout incarnée dans un projet politique de coopération entre les États, et qui était quand même très régi par une vision fondamentalement réaliste des relations internationales. Mais c'était l'idée, effectivement, qu'on ne résoudrait pas les conflits par la guerre, mais par la négociation permanente, et c'est ce qui a fondé la création de la Société des Nations, la création d'une enceinte multilatérale universelle qui devait permettre aux États de s'engager sur la voie de la coopération et du désamorçage des conflits.
Pierre Ratto, puis après, j'aurais qu'on revienne juste pour la fin à l'actualité. Mais allez-y, Pierre Ratto.
Oui, simplement pour revenir sur cette idée de d'abord de passé. La connaissance historique, elle est importante. D'ailleurs, le corréla de la thèse que j'ai évoquée, le présent est gros de l'avenir, c'est que le présent est chargé du passé,
voilà,
et gros de l'avenir.
Oui.
Il est chargé du passé. C'est-à-dire que le passé est toujours actif, exactement. Et la connaissance historique permet de comprendre précisément comment on vit aujourd'hui des développements de décisions prises ou d'intérêts qui ont été ceux des souverains précédents, et donc inscrire toujours l'action dans une continuité historique, et jamais en fait de rupture, sinon apparente.
Il y a pas Alors, de puisque vous parlez de connaissances historiques et géographiques et de culture en général, évidemment, je ne résiste pas à vous faire entendre un sujet dont on parle beaucoup depuis 48 heures. Steve Witkoff, qui est l'envoyé spécial de Donald Trump pour les négociations en ce moment entre l'Ukraine et la Russie, a eu bien du mal à nommer les régions concernées qui sont la pomme de discorde. Écoutez.
Je pense que le plus gros problème dans ce conflit sont ces quatre soi-disant régions, Donbass, Crimée. Vous savez les noms, Lugansk, et il y en a deux autres.
Hier, il y a eu une interview à la télévision américaine du négociateur américain, Witkoff, dont on rappelle qu'il est promoteur immobilier, et je ne ferai pas offense au promoteur immobilier en disant qu'il n'est pas forcément très bien préparé à une négociation diplomatique pour essayer de mettre fin à une guerre. Alors ça, c'est vu dans l'interview. Il ne savait pas de quoi il parlait. Il n'était pas capable de lister, par exemple, les provinces réclamées par la Russie. Mais, au fond, rien dans les demandes russes ne le choquait.
Le commentaire était de Nathalie Loiseau, députée européenne. Comment vous réagissez à cette petite histoire dans la grande histoire? Peut-être est-ce d'ailleurs une grande histoire, je ne sais pas. Vous allez nous dire, Gérard Arrault.
Moi, je pense que c'est une petite histoire. D'accord. Vous savez, ça fait partie un petit peu des... c'est un beau coup, ça permet de dire, voyez bien, cet Américain est nul, il ne sait même pas le nom. Mais ce qui compte, c'est pas de savoir le nom. Ce qui compte dans l'interview de Witkoff, c'était la suite, où il montrait qu'il acceptait tout ce que les Russes disaient. Au fond, c'est les quatre noms, c'est un peu anecdotique. En revanche, en réalité, ce qui était beaucoup plus sérieux, c'est qu'il disait qu'il y avait eu des référendums dans ces régions, alors que tout le monde sait que c'était des référendums totalement bidons, que c'était des régions peuplées de Russes, alors qu'il faisait la confusion entre russophones et russes, ce qui voudrait dire que Zelensky, qui est russophone, est russe, etc., etc. C'était là, je dirais, plus de, qui est beaucoup plus grave que ça. Que son ignorance, c'était même le fait qu'il avait adopté des positions politiques. Et quand vous adoptez ces positions politiques, vous ne les adoptez pas par ignorance, mais par choix politique. Ce qu'il y a là derrière, c'est l'administration Trump qui a décidé qu'il y avait un fort et un faible, que c'était, pour citer le dialogue des Méliens de Pierre Asner, qui, de Thucydide, mais oui. Auquel Pierre Asner se référait, il y a le faible, l'Ukraine, il y a le fort, la Russie, et la paix, il faudra que donc le faible accepte de céder face au fort. Et là derrière, il y a une logique. Hein. Il y a une logique. Si vous êtes américain, vous pouvez vous dire honnêtement, l'Ukraine, c'est pas mon intérêt. Je perds
malgré
mon temps.
Malgré les hydrocarbures, malgré le sous-sol.
Comment ?
Malgré le sol, les hydrocarbures, les matières premières.
Oui, c'est pas l'essor des Américains. Ce qui est plus grave pour nous, c'est que l'Estonie non plus n'est pas un intérêt pour les Américains. Et donc, je veux mettre un terme à cette guerre le plus rapidement possible, où l'administration précédente nous a engagés à tort, selon ce qu'ils disent. Et honnêtement, pour utiliser une expression américaine, je suis prêt à jeter l'Ukraine sous l'autobus. Voilà, c'est très simple.
C'est
ce que
très
dit.
Clair, surtout.
C'est très, très clair. Voilà.
Je vous laisse le dernier mot, Paul Rateau. Pour la place d'autrui, qui est le vrai enjeu des négociations diplomatiques selon Leibniz, ne pas réussir à nommer clairement la pomme de discorde entre les Ukrainiens et les Russes, c'est peut-être pas gravissime, le reste étant très grave, vient nous dire Gérard Haro, mais c'est symptomatique. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, ça veut dire tout simplement qu'on ne se met pas à la place de l'autre, et c'est quand même le principe leibnizien par excellence, c'est-à-dire que si on veut négocier, il faut être capable d'épouser les intérêts de l'adversaire, de celui avec lequel on transige, si on veut essayer de rapprocher, qu'il y ait une convergence des intérêts. Donc effectivement, c'est une curieuse manière de faire les choses. Et je dirais un dernier mot, si vous le permettez, concernant justement l'idée d'une paix imposée. Leibniz le dit à plusieurs reprises, la paix à tout prix, c'est évidemment inacceptable. C'est-à-dire que parfois la guerre vaut mieux que la paix, dans la mesure où une paix qui s'impose de manière très défavorable pour l'une des deux parties, ça n'est que retarder le moment de la reprise des hostilités. C'est pas une paix, c'est une trêve. Et il prend l'exemple de deux lutteurs. Hein. On arrête le combat à un moment et c'est pas une paix. Elle va reprendre puisqu'ils vont reprendre des forces et à nouveau se combattre. Et deuxième élément, la paix n'est pas possible avec une des deux parties qui n'est pas fiable. Les gars, il y a la question qu'on n'a pas beaucoup abordée, qui est de la confiance que l'on a ou qu'on ne peut pas avoir avec celui avec lequel on discute. Parce que la négociation, le point de départ, c'est qu'il y ait une volonté commune et qu'on puisse faire confiance à l'autre, parce qu'à un moment donné, pour ce qu'il y ait véritable accord, pour qu'il tienne, il faut qu'il y ait cette confiance, ou en tout cas qu'elle soit imposée par un rapport de force, je dirais.
On va lancer une musique dont je vous dirai ce qu'elle est après, et je vais vous laisser réagir rapidement, s'il vous plaît, Gérard Haro. La confiance, ça vous fait grimacer.
On ne fait jamais confiance à l'autre, jamais. On pense que l'autre veut prendre sa revanche, et la seule manière d'assurer la pérennité du... Je dirais d'ailleurs qu'une trêve, c'est déjà pas mal, hein. D'une trêve ou d'une paix, c'est d'avoir les moyens de dissuader l'autre de reprendre le combat.
Vous êtes d'accord, Laurence Badet ?
Anecdotique, là, ce qu'on commentait, je ne sais pas. Cette imprécision, quand même, donne un énorme avantage dans le cas d'une négociation à la Russie. Et nous rappelle aussi qu'une bonne négociation se fonde sur des partenaires de négociation stables. Or, ce que la Russie a pour elle, c'est des dirigeants qui sont au pouvoir depuis une vingtaine d'années. C'est un ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui est au pouvoir depuis une vingtaine d'années. Et les Russes ont une culture de la négociation extrêmement précise.
Exactement.
Et ça, c'est un avantage énorme. Pas devant les médias, effectivement, mais quand on va vraiment entrer dans le dur. Et pour ça, moi, je suis plus inquiète. C'est une anecdote, effectivement, c'est anecdotique, mais sur le fond, c'est très révélateur d'une grande faiblesse de l'équipe états-unienne face à la Russie aujourd'hui.
«
Vous entendez la grande symphonie caractéristique pour la paix avec la République française qui a été composée par l'Autrichien Paul Wranitzky après l'armistice du 18 avril 1797 entre la France et la coalition contre elle, où figurait l'Autriche. En réalité, les négociations de paix ont duré des mois, difficiles, si bien que l'empereur François II d'Autriche a interdit en décembre 1797 qu'on joue cette symphonie. Et pour finir, les négociations ont tout à fait échoué. La guerre a repris en 1799. Nous terminons sur cette touche un peu sceptique, mais je crois qu'elle correspond à plusieurs analyses que vous avez faites. C'est difficile de négocier des paix entre peuples qui s'affrontent. Merci Gérard Arrault, Laurence Badel et Paul Ratteau. Les références de vos travaux sont sur notre site. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms qui parle de l'histoire cette semaine. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi a-t-on cru à la fin de l'histoire? À la fin du XXe siècle, on a cru à la fin de l'histoire. Pourquoi exactement ce sentiment a-t-il pu s'imposer à un certain moment du temps qui nous paraît bien lointain aujourd'hui, en ce deuxième quart déjà du XXIe siècle, alors que l'histoire semble faire feu de toutes parts de nouveau? Qu'entendait-on en 1989, au moment de la chute du mur de Berlin, au moment de l'écroulement des régimes communistes d'Europe, en particulier de l'Europe de l'Est? Comment a-t-on pu croire à ce que certains historiens, certains politistes, en particulier aux États-Unis, ont appelé la fin de l'histoire? La fin de l'histoire, c'était pour ces auteurs la fin du conflit sur l'histoire, la fin du conflit sur l'histoire universelle des hommes en particulier. Il y avait concurrence entre deux grands récits globaux qui permettaient aux hommes de se situer dans l'histoire, de donner sens à leur vie dans le temps, d'orienter aussi leurs conflits et leurs guerres. Il y avait une histoire de l'émancipation par le communisme, une histoire qui s'est imposée aussi à certains régimes et qui prétendait imposer sa loi à l'histoire humaine en général à travers un certain type de représentation des conflits et de l'injustice humaine. Et il y avait un autre cadre, le cadre démocratique, le cadre libéral, le cadre de l'État rationnel. Le premier était sorti plutôt de Marx, le deuxième plutôt de Hegel, deux grandes philosophies de l'histoire du 19e siècle européen. L'une qui passe par le conflit matériel entre les humains qu'il faudrait régler par une justice universelle et qui a donné lieu à des déformations historiques violentes. L'autre qui pensait à un État rationnel et universel capable de régler tous les conflits entre les humains. Et d'une certaine manière, la chute du mur de Berlin, c'était la victoire d'une des représentations de l'histoire sur l'autre. On avait maintenant un cadre pour traiter les conflits humains par l'économie libérale, par la démocratie, par l'État rationnel et supposé universel. Ce n'était pas la fin des conflits entre les humains, ce n'était pas la fin de nos histoires. Il pouvait toujours y avoir beaucoup d'histoires, mais c'était l'idée qu'une seule représentation de l'histoire universelle subsistait, un acheminement vers la rationalité qui permettait de traiter les conflits dans la paix et dans la justice, avec malgré tout un certain nombre de tensions sociales et de problèmes à régler, une dynamique, une dialectique même qui continuait, mais dans un cadre qui n'était plus conflictuel. En réalité, la fin de l'histoire, c'était donc l'avènement d'un certain grand récit historique universel qui ne laissait plus place à la conflictualité des histoires. Comme l'avait écrit pourtant André Glucksmann en 1989 ou 1990, la fin du communisme, c'était le retour de l'histoire. Qu'est-ce qu'il entendait par là? C'était justement l'éclatement d'un seul modèle d'histoire universelle qui dépasserait toutes les représentations diverses que les humains se font du sens de leur vie dans le temps. Cette diversité possiblement conflictuelle des histoires qui n'est jamais totalement fini, qui au contraire est toujours relancé et pour laquelle on a besoin de la connaissance historique. En fait, au lieu d'être entré dans la fin de l'histoire, nous sommes entrés dans le besoin d'histoire, le besoin de la compréhension des faits historiques des humains, de la représentation qu'ils s'en font, de la conflictualité et de leur diversité pour arriver à la paix entre les histoires.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger, avec à la technique François Saint-Jour. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Armance Bourquin, Chaïma Gibouard, Carla Michel et Nassim El-Kabli. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.